Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de notre podcast Sphère des Codes. On fait notre grand retour. Pour cette occasion, je serai votre animatrice. Moi, c'est Gaëlle, enchantée. Je fais partie du recrutement chez Sphère depuis 3 ans aujourd'hui et je suis ravie de vous embarquer dans ce podcast qui va vraiment être dédié au monde de la tech et à comment on va décrypter tout ça ensemble. L'idée, c'est de parler d'un sujet qui est très spécifique à Sphère. C'est un peu les tests techniques chez nous qu'on appelle les playoffs. Et qui mieux pour parler des playoffs que les personnes qui font passer ces tests? Donc ce sont les évaluateurs playoffs et je vais les laisser se présenter à vous directement.
Donc moi c'est Florian Dezé, je suis data ingénieur et machine learning ingénieur à Sphère depuis 4 ans maintenant et je fais des playoffs depuis à peu près 2 ans et demi.
Moi, c'est Nadia, je suis chez Sphere depuis mars, donc un peu moins d'un an maintenant. Je suis software engineer et je fais passer des playoffs depuis peut-être 6 mois, quelque chose comme ça.
Bah, on peut enchaîner tout de suite sur la première question et c'est un peu nous dire pourquoi vous êtes devenu évaluateur un peu, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle?
Je peux commencer. Bah, moi, on me l'a proposé en fait. Et j'avais déjà eu un peu ce rôle-là dans mon métier avant, dans mon entreprise d'avant. J'avais beaucoup aimé parce qu'on rencontre beaucoup de monde, on voit les différents profils, on voit ce qui marche en entretien ou pas aussi. Donc c'est intéressant d'un point de vue personnel. Et puis, oui, humainement, c'est une super aventure de faire ça. Donc j'étais partante tout de suite.
Moi, c'est un peu pareil au début, on m'a fait une proposition et c'était la partie échange, en fait, découvrir des candidats parfois un peu plus jeunes ou en tout cas qui ont commencé comme moi et surtout avoir une forme de progression même pour moi-même.
À quel niveau?
Le fait de passer les entretiens de play-off quand je suis rentré et le fait de les faire passer plus tard où le
Ok.
niveau d'exigence n'est pas le même parce que quand on évalue, on doit quand même avoir la réponse aux questions pour les candidats. On doit avoir un regard critique aussi sur les solutions. Donc, on ne doit pas juste vérifier si leur solution fonctionne ou pas. Donc, on doit avoir un niveau un peu plus élevé que quand on rentre. Et c'est intéressant, surtout, d'analyser parfois des réponses assez inattendues de certains candidats qui peuvent être parfois très bonnes.
Ok, donc se faire évoluer aussi, et pas que humainement parlant, voir un peu comment tu as évolué au final au travers ces différentes années. Hein. Ok, top. Et si vous deviez un peu expliquer rapidement en quoi consistent concrètement les playoffs, un peu le but hein, de l'avoir intégré dans le process, ce serait quoi selon vous?
Le but, ça reste quand même de trouver des candidats qui correspondent. Dans l'idée, c'est de trouver des candidats avec qui on a envie de travailler. Pas forcément que la partie technique, il y a la partie personnalité. Est-ce que pendant 1 heure, on a des échanges qui sont agréables, constructifs aussi, mais aussi est-ce que les échanges, on va dire, on voit un playoff non pas comme un examen, mais plus comme un échange entre deux développeurs qui font du pair programming. Donc l'idée, c'est de se dire est-ce qu'on a envie de travailler avec la personne? Et ça joue beaucoup au-delà du technique, c'est de se dire si on construit une entreprise avec des employés avec qui on a tous envie de travailler et tous envie d'échanger, ça donne un aspect du travail aussi beaucoup plus agréable.
Je suis d'accord, je pense que bon, y a quand même l'aspect technique qui permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé sur le profil, c'est toujours intéressant. Et puis le contexte technique qui fait que. Alors pour le côté humain, je pense que je fais confiance aux entretiens qui sont faits
Merci.
avant pour savoir que bon, la personne ira bien et que le contact est bon. Mais c'est vrai que on les met parfois dans des conditions où ils sont moins à l'aise, ils vont se tromper, peut-être, ils vont pas être d'accord avec nous, peut-être aussi. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils restent campés sur leur position, ou est-ce qu'ils sont dans l'échange, ils sont d'accord pour dire que ah, peut-être qu'ils avaient tort, ou pour comment ils vont discuter en fait dans la vie de tous les jours dans le métier de software engineer.
À votre avis, c'est quoi les compétences les plus importantes que vous recherchez quand vous voyez quelqu'un justement pendant les playoffs?
Plus la partie méthodologie. Dire que ne pas foncer directement sur le problème, mais prendre le temps de le découper, prendre le temps d'expliquer les différentes étapes et après commencer à l'écrire. Je préfère quelqu'un qui ne réussisse pas à la fin de l'exercice, mais qui a été capable de me le découper en plein de petits problèmes et de me faire chaque étape de manière indépendante, quitte à en rater une, mais au moins de me dire bah, globalement, il a réussi à découper le problème. Parce que dans le monde réel, on n'a pas qu'1 heure, donc un peu plus de temps pour les parties plus compliquées, bah, c'est tant mieux. Donc non, c'est plus oui, la méthodologie, la réflexion avant de foncer tête baissée dans une solution.
Ouais, je suis d'accord. Bah, des fois, forcément, les personnes que je rencontre stressent aussi un peu par rapport aux playoffs, même en amont, même avant de les avoir passés. Et des fois, je leur ai dit, c'est possible que même si tu n'arrives pas au bout de l'exercice, bah, c'est pas grave. Des fois, on s'attend pas forcément à ce que tu arrives au bout. Et c'est ok, en fait, on va vraiment regarder comment tu réfléchis, comment tu as analysé le problème, comment tu l'expliques aussi. Et bah, des fois, ça peut suffire aussi, parce qu'on voit que bah, c'est bien fait, que tu as réussi à réfléchir, et tu t'en sortirais très bien en mission.
C'est surtout il y a des candidats qui découpent les choses et en fait quand il y a un bloc qu'ils n'arrivent pas à faire, ils disent je suppose que ça me ressort ça et je passe à la suite. Et en fait, ils sont capables du coup de passer à la suite, d'avoir des choses qui, même en code, hein, parfois de faire des codes qui tournent bien, parce qu'ils ont mis une réponse par défaut à certains endroits, parce qu'ils se sont dit je suis pas capable de le faire à cette étape-là, mais c'est pas là. Et à la fin, ils ont un résultat très constructif. Et on a pu les évaluer sur tous les aspects et ils ne sont pas bloqués pendant à une question pendant tout le long du playoff.
Pour moi, c'est peut-être particulier parce que je fais l'algorithme. Donc, il n'y a pas tellement de méthode ou quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir souvent le moment où ils vont commencer à bloquer, voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils ne trouvent plus et ils s'arrêtent? Ou est-ce qu'ils vont continuer à avoir des idées? Est-ce qu'ils arrivent à prendre du recul pour repenser un peu, ok, j'ai quoi comme structure de données, des choses comme ça. Donc c'est peut-être plus le côté créativité et réussir à retomber sur ses pattes, quoi, pas perdre ses moyens.
Sa capacité à réagir, en fait. Ok. À votre avis, c'est quoi la différence majeure entre l'évaluation d'une personne qu'on peut dire un peu plus junior, d'une personne vraiment expérimentée?
C'est plus difficile quand la personne est plus expérimentée. C'est un peu ce que tu disais, faut comprendre du coup, faut pas se tromper, faut trouver des exercices plus complexes aussi. En algorithmie, on peut arriver sur des choses compliquées, donc faut avoir les réponses. Après, ça reste un échange de toute façon. C'est plus intéressant aussi quand ils sont moins juniors. Quand ils sont plus juniors, le côté sympa, c'est de pouvoir donner des pistes. De pouvoir un peu orienter la personne. Parfois, elle se découvre un peu aussi quand ils n'ont pas l'habitude de faire des exercices comme ça. Donc, voilà, il y a l'aspect humain est plus intéressant quand c'est des juniors. Les seniors, c'est plus technique, donc c'est un plus gros défi, mais c'est plus marrant aussi.
Je rejoins l'idée, quand c'est senior, en général, ils s'en sortent très bien. Donc, ils ont une bonne capacité à expliquer ce qu'ils font. Les réponses vont parfois très vite. Mais quand ils ont des réponses un peu originales, c'est vrai qu'il faut être en capacité de comprendre aussi. Et quand c'est des juniors, on s'arrête plutôt sur des exercices un peu plus basiques. Mais par contre, c'est beaucoup plus dans l'échange humain. À quel moment est-ce que je peux l'aider? À quel moment je dois m'arrêter de l'aider?
Plus de pédagogie en fait avec les juniors et plus de défis quand on est sur un profil plus expérimenté. Et justement, quel a été votre plus grand défi en tant qu'évaluateur?
Moi, je pense que c'est les extrêmes quand y a une personne soit qui s'en sort pas du tout. Comment continuer l'entretien? Se rendre compte de ce que tu disais, il faut aider, mais pas trop non plus, sinon ça n'a plus du tout de sens. Et même eux le sentent en fait. Ou alors quand ça va très vite. Et que là, au bout d'une demi-heure, on se dit, ah ben j'ai plus grand-chose à proposer. Ouais, quand on voit que ça va très vite et qu'il va falloir aller chercher des problèmes plus complexes que d'habitude.
Moi, c'est exactement ces situations-là. C'est débloquer des personnes qui ont beaucoup de mal et alors que le temps passe. Et aussi un cas où une personne avait fini en une demi-heure et s'arrête de me dire qu'est-ce que je propose? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que j'ai le droit de m'arrêter là et de leur dire bah en fait non c'est très bien. Ou est-ce qu'on peut essayer de les pousser un peu dans le dernier retranchement juste pour le plaisir?
Est-ce que vous avez des anecdotes marquantes, des choses un peu inattendues qui se seraient passées et bah, qui vous ont un peu marqué?
Ce qui m'a plus marqué, je pense, c'est des candidats qui avaient du mal à accepter l'erreur sur certaines de leurs questions, certaines de leurs réponses, enfin, certaines des réponses qu'ils ont apportées, et du coup qui perdaient du temps à absolument vouloir justifier. Et du coup, c'est comment poliment se dire, enfin expliquer, prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est faux, et poliment essayer de passer sur d'autres questions pour éviter qu'ils perdent du temps on va dire, s'entêter, on va dire, sur leur réponse.
Après, je trouve justement ces cas-là intéressants parce que une fois qu'on leur a expliqué, non, en fait, c'est pas comme ça. Voir à quel point ils vont insister indique des problèmes futurs quand on va devoir travailler avec eux en équipe. Donc, c'est plutôt une indication assez intéressante, je pense, quand ils insistent comme ça dans une erreur.
Comment est-ce que vous gérez les situations où ben, le candidat est nerveux ou en tout cas il a du mal à avancer, peut-être un peu stressé, voire trop stressé?
Je blague un peu, souvent ça détend, j'explique que bon, voilà, l'algorithme, il y a plein de gens qui n'aiment pas, mais on va y aller quand même, et puis ça va être rigolo, et que j'essaie de transformer ça un peu en échange pour se connaître, insister sur le fait qu'il n'y a pas, il n'y a rien à réussir, c'est juste une question d'échanger, de voir comment la personne réfléchit.
Moi, j'ai tendance à rappeler toujours que c'est un exercice de pair programming qui me faut voir comme un collègue. Je le fais ça dès le début et en général, ça les aide un petit peu. Après, les 5 premières minutes, pour certaines personnes sont vraiment très stressées, mais après, une fois qu'ils sont entrés dans l'exercice, ça se déroule tout seul. Et s'ils commencent à bloquer et à restresser, bah, on les débloque et en fait, petit à petit, ils se rendent compte que vraiment, c'est juste un échange.
Est-ce qu'il y a des moments où justement ça peut être... Souvent c'est le premier play-off en fait, le premier test des fois qui fait stresser la personne. Peut-être des fois en fait en passant en deuxième ou en troisième ça peut justement peut-être un peu moins avoir ce côté stressant. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué ou pas?
Un peu, c'est pour ça aussi que je pose toujours la question, est-ce que je suis le premier des playoffs ou pas? Parce que comme ça, je rappelle un peu le contexte des playoffs, et si je ne suis pas le premier, je passe plus rapidement aux exercices. J'en mets un peu de contexte, on va dire, si je suis le premier à faire passer un playoff.
Oui, je suis d'accord que le premier playoff, faut peut-être un peu plus expliquer. Après, le dernier playoff, souvent, ils sont fatigués. Ils ont déjà fait deux playoffs avant. Il y a le stress qui reste un peu quand même, mine de rien. Donc, souvent, ils sont un peu plus fatigués. Donc, c'est des situations différentes, mais ça se gère bien.
Et quels conseils vous donneriez aux candidates qui veulent se préparer justement au test des playoffs?
Alors, il y a un mail qui est envoyé avec des indications.
Ouais, bah en fait on envoie déjà parce qu'on sait que comme tu disais l'algo soit on aime soit on n'aime pas, souvent c'est un grand débat mais t'as souvent le noir ou le blanc là-dedans. On envoie quand même un mail où on récapitule tous les tests, on rajoute dedans justement bah, des liens pour s'entraîner en se disant bah voilà si t'es pas à l'aise en algo, même si voilà t'es pas un cador, le but c'est que tu révises un petit peu, tu revois peut-être des fois quelques bases, c'est pas ton métier, t'en fais pas tous les jours et c'est ok. Mais on envoie au moins déjà ça. Au besoin, on peut envoyer aussi des petits liens pour bah dire ben tiens, révise ça si tu te sens vraiment pas à l'aise pour être prêt en fait le jour des playoffs.
Non, bah, ça dépend des playoffs, mais pour l'algorithmie, personne n'est un expert, surtout quand on n'en a pas fait depuis longtemps. Il y a plein de sites en ligne gratuits qui permettent de faire plein d'exercices, ça aide beaucoup. Et pour le code, en général, ce qu'on conseille le plus, enfin, un candidat, normalement, c'est coder quand il arrive. Ce qui pêche, c'est plus la qualité de code et les normes, etc. Et là, c'est pareil, lire beaucoup de blogs, prendre le temps de faire quelques petits projets, mais vraiment des projets simples, hein, pas des trucs qui prennent trop de temps, et d'essayer d'appliquer soi-même toutes les règles de qualité de code qu'on pourrait trouver, parce que c'est ce qui fait la différence pendant un entretien.
Quel impact pensez-vous que les tests, enfin du coup les playoffs, ont sur la qualité des recrutements chez Sphere?
Alors, pour moi, comme pour d'autres candidats que j'ai rencontrés, c'est le fait de mettre un test, ça leur donne envie de venir. En fait, ils se disent que. En fait, toute entreprise va se dire, voilà, on recherche votre profil, donc on sait, on connaît votre domaine, on est technique, venez chez nous, c'est intéressant. Mais l'entretien, c'est parfois simplement un entretien de personnalité et ça s'arrête là. Le fait qu'ils se sentent évalués par des personnes qui sont plus expérimentées, ils se disent, ah bah il y a des gens expérimentés qui peuvent m'apprendre des choses et qui peuvent, enfin, je les rencontre en fait tout de suite. Et ça rassure dans le fait qu'ils arrivent dans une entreprise où ils ont déjà rencontré des gens expérimentés qui peuvent les faire grandir.
Bah moi, je me souviens d'un cas où il y avait un profil qui, quand j'ai lu son CV, je me suis dit, ça va être super, c'est tout parfait. Et en fait, arriver en playoff, c'était pas du tout ça. Donc, je pense que c'est important juste pour ces cas-là qui n'arrivent pas souvent, mais quand ça arrive, faut l'avoir repéré, quoi.
Après, je ne sais pas si vous voyez justement vous des avantages peut-être ou même des inconvénients, voire les deux, à être justement évaluateur ou évaluatrice playoff.
Moi, c'est personnel, hein, mais c'est vraiment le côté de, à force de faire beaucoup de playoffs et de refaire parfois les mêmes questions, c'est de faire attention à l'exigence et de ne pas se dire, en fait, j'ai répété cet exercice tellement de fois que ça devient trop simple, et donc du coup, je vais être plus exigeant envers le candidat ou la candidate. Et l'idée, c'est de se dire, non, 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 j'ai eu d'autres. Par rapport à mes autres expériences passées, voilà, faut que je garde un certain. Mon niveau d'exigence, il faut pas. Enfin, il faut qu'il reste le même, qu'il reste constant au cours du temps.
Moi, je trouve toujours intéressant d'avoir une idée de l'histoire du candidat, un peu qu'est-ce qu'il a fait, il ou elle. Juste pour voir les évolutions possibles dans la carrière, il y a des personnes qui passent très longtemps dans le même rôle, qui sont persuadées d'être tech lead, de pouvoir demander des postes ultra intéressants. Et en fait, le fait de ne pas avoir bougé du tout fait que, bah, en les testant techniquement, ça ne matche plus. Du coup, ouais, des petites choses comme ça où, d'un point de vue personnel, on se dit, ah oui, en fait, faut peut-être faire attention à ci ou à ça. Ou tel type de profil, finalement, ça marche toujours plutôt bien, ou des choses comme ça.
Un avantage de voir un petit peu et se dire bah, c'est pas parce que enfin il y a des fois des références et certains profils oui où on sait que ça va peut-être être un peu compliqué le fait d'être enfermé sur un seul et même projet depuis presque 10 ans, bah ok, ça démontre bien sûr de compétences, mais des fois bah, c'est aussi être enfermé qui t'empêche aussi d'évoluer finalement, donc d'en avoir conscience aussi et pouvoir juger ça en tant qu'évaluateur, ça peut être pas mal. À votre avis, c'est quoi les qualités essentielles pour être un bon et une bonne évaluatrice?
Je pense qu'il faut avoir de l'empathie, essayer de voir un peu comment la personne se sent, est-ce que s'il y a des difficultés, d'où elles viennent.
Je ne vais pas apporter grand-chose de plus. Empathie et savoir rassurer les candidats.
Bon, en fait, vous êtes toutes et tous passés par là, donc c'est ce que je répète toujours, mais on n'a aucun intérêt à piéger qui que ce soit, c'est pas du tout l'objectif de toute manière du test. Tout le monde l'a fait, ça a été stressant pour tout le monde. Donc le but, c'est que ça reste un échange constructif. Et si moi, quand je rappelle le candidat post-playoff et qu'il me dit bah, j'ai appris des choses, genre je ressors un peu grandi. Et pareil pour vous, en fait, si vous me dites ça, je me dis bah, nickel, c'est banco et on a tout gagné en fait. Un conseil justement à donner à quelqu'un qui voudrait rejoindre justement le rang des évaluateurs, évaluatrices à plus ou moins long terme?
À tester et puis après si ça plaît on continue, si ça plaît pas bah, on passe le flambeau à quelqu'un d'autre.
Bien sûr, après, ouais, voilà, il n'y a aucune obligation à rester évaluateur ou évaluatrice une fois qu'on l'est devenu, mais au moins on teste et on voit si ça plaît. De toute manière, il y a tout un process, donc ça permet aussi vite de se rendre compte si c'est quelque chose qui peut te plaire ou pas à l'instant T. Et quel serait votre moment, votre partie, peut-être votre exo préféré en fait pendant les playoffs? Le petit truc où vous dites à chaque fois, ça me fait grave plaisir de faire les playoffs pour ça.
J'en ai certains, parce que tout le monde tombe dans le même panneau à chaque fois. Je ne dirai pas lequel, mais il y en a bien que j'aime bien faire. Mais c'est intéressant parce que ils tombent tous dans les. Enfin, ils trouvent tous une première solution qui ne marche pas entièrement. Mais à chaque fois, ils me disent, je ne suis pas capable de trouver la solution entièrement, donc je vais proposer une solution qui marche à moitié. Et après, ils bloquent dessus, et puis je dois donner deux, trois indices, et après, bah, ça dépend du candidat. Certains trouvent tout de suite en se disant, c'est bon, j'ai compris, je vois où c'est, et tu proposes la solution. D'autres nécessitent à ce qu'on donne la solution parfois. Mais j'apprécie pour ça.
Moi, j'aime bien le moment où on voit un peu le côté Eureka. Quand les gens ont eu un problème sur un exercice en particulier et que on voit dans leurs yeux, c'est ça y est, ils ont compris. Et que ça monte doucement, là, je trouve ça super marrant à chaque fois comme moment de dire, ah, c'est bon, il a compris.
Bah, merci beaucoup, c'était hyper enrichissant et en vrai ça permet d'avoir une vision un peu plus claire des fois de ce que ça peut être les playoffs. Quand on ne connaît pas forcément, ça fait toujours peur à 90% des cas aux candidats. Donc merci pour ce partage.